Mais en spiritualité, il n'y a pas de taille unique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas qu'une spiritualité, une seule forme. Il y a de nombreuses expressions, des accents différents. Notre manière, je dirais, de vivre notre vie avec Dieu et avec les uns les autres, notre manière est influencée par nos personnalités, hein, plus intellectuelles, plus affectives, etc. C'est aussi influencé par notre éducation, nos expériences, même notre âge, puisque la spiritualité, la forme de spiritualité change aussi avec l'âge. Aussi la culture ambiante, aussi la culture de notre propre tradition, tout ça affecte la spiritualité. Donc il n'y a pas de taille unique. Et je dirais un des buts de cette formation, surtout cette première année, c'est de vous donner un éventail de ce qui existe, des accents différents, des manières différentes, même des manières différentes de pratiquer les disciplines spirituelles, de prier, de lire la Bible, etc. Afin un peu que chacun puisse trouver ce qui lui correspond, parce que chacun est différent. Mais je dirais, une connaissance assez large de la spiritualité peut être aussi utile pour accompagner d'autres. Parce que quand nous sommes conscients qu'il y a de nombreuses possibilités, on est peut-être moins tenté de plaquer notre spiritualité sur l'accompagner et d'admettre que peut-être il a un autre chemin, une autre manière d'exprimer sa spiritualité que nous. C'était Maslow, qui est psychologue, qui a dit, mais c'est dans la psychothérapie, mais je trouve que ça vaut pour la spiritualité aussi. Maslow qui a dit, si, en tant que thérapeute, si le seul outil que vous possédez est un marteau, vous avez tendance de voir toute difficulté comme un clou. Et je pense que aussi, on peut faire les liens dans l'accompagnement spirituel. Donc, j'aimerais que nous voyions ensemble ce matin qu'il existe déjà dans le Nouveau Testament, surtout dans les Évangiles, une unité et une diversité de spiritualité. Unité et diversité. Il y a dans les Évangiles, ces récits de la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il y a des éléments en commun des quatre évangiles. Il y a des principes qu'on va trouver, de spiritualité, qu'on va trouver dans les quatre. Il y a un centre en commun dans les quatre. Par exemple, le centre de la spiritualité, c'est aimer Dieu et aimer ton prochain. Ça, on va trouver dans les quatre. Dit d'une manière différente, parfois, mais c'est quand même ce centre, aime Dieu et aime ton prochain. Il y a aussi d'autres, je ne vais pas faire la liste de tous les traits en commun, mais il y a par exemple aussi de suivre Jésus-Christ, la suivance du Christ, qu'un disciple est appelé à être comme son maître. Il y a le fait de prendre sa croix, le renoncement. C'est des thèmes qui sont dans les quatre évangiles. L'aspect de la prière, l'œuvre de l'esprit, etc. Donc il y a des choses en commun dans les quatre, mais il y a aussi des accents différents. Et moi je dirais que chaque évangile a une coloration unique. Même j'irais aussi loin de dire qu'il y a une spiritualité unique dans chaque évangile. C'est vrai, chaque évangile va parler de aimer Dieu et aimer ton prochain, mais chacun va mettre l'accent sur une ou plusieurs valeurs particulières. Chacun va parler d'une manière d'aimer. La forme que ça va prendre, cet amour envers Dieu et l'amour envers le prochain, cette forme va être un peu différente dans chaque évangile. Et c'est vrai, on va parler de oui, il faut suivre Jésus-Christ. Un disciple est appelé à être comme son maître. Mais chaque évangile va donner un portrait de Jésus-Christ un peu différent, avec des accents différents. Et pour moi, c'est normal pour ces écrits, parce que chaque évangéliste interprète cet événement de Dieu fait chair pour son auditoire, pour leur situation de vie, pour leurs besoins. Et ces textes ont été écrits, les évangiles ont été écrits dans des situations différentes, à des publics différents, par des évangélistes différents. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des accents et des spiritualités différentes. Donc chaque évangéliste va accentuer ou souligner des facettes de la vie de Jésus, ou la vie du disciple, qui correspondent aux besoins de ses lecteurs, de leur situation de vie. Parce que les écrits du Nouveau Testament ont été écrits aux églises pour instruire leurs lecteurs sur la manière de vivre une vie en réponse de cette révélation de Dieu en Jésus-Christ. Donc chacun interprète cet événement de Dieu fait chair. Si on voulait prendre peut-être un parallèle dans le monde de l'art, je dirais que les évangélistes peignent des portraits. Les évangiles ne sont pas un vidéo, c'est pas des photos noires et blancs prises comme ça. Ce sont des portraits de la vie de Jésus, de la vie du disciple. Et chacun, sous l'inspiration, va peindre un portrait. Et il va peindre ce portrait par sa sélection des faits. Il va raconter certains faits et il va laisser d'autres faits à côté. Et déjà par sa sélection, il va peindre un portrait différent. Il va peindre un portrait aussi différent par sa manière de raconter les mêmes événements. Il y a des différences. Même quand on raconte les mêmes événements, il y a des différences. Ou parfois, il place les mêmes événements dans un ordre différent. Et par ces faits, il y a des touches différentes pour son portrait. Ou parfois ils utilisent des mots différents. Ou parfois ils utilisent les mêmes mots avec des sens différents. Si par exemple il y a des peintres qui peignaient un portrait de Charles de Gaulle, on peut imaginer un portrait de Charles de Gaulle en tant que soldat, un autre en tant qu'homme politique, hein, cravate, costume. Un autre, père de famille, j'allais dire avec jean et pantoufles, mais je ne vois pas Charles de Gaulle en jean et pantoufles, mais bon, peut-être, hein. Mais chacun peut peindre un portrait un peu différent, mais la réalité, c'est la même personne. Et je dirais, il y a toujours le même nez dans tous les portraits. Il y a toujours, la même personne, il y a une réalité et ces différents portraits nous aident à saisir toute la richesse de la personne. Et donc, en ce qui concerne les évangiles, je crois que les évangiles, ce sont des portraits, c'est pas de l'art abstrait, c'est pas pure invention, c'est pas fabriqué de toutes pièces, non. Je pense que les évangiles, il y a une continuité entre le Jésus historique et ses évangiles. Ce n'est pas des romans. Et ces évangiles transmettent fidèlement ces vérités ou cette vérité sur Jésus-Christ. Donc je sais que nous n'avons pas beaucoup d'habitude d'étudier les évangiles en mettant l'accent sur les différences. Souvent, on voit les évangiles comme un seul DVD qui passe, comme une série de photos. Et c'est un peu dommage parce que nous perdons la riche coloration de chaque évangile. C'est un peu dommage. On est plus sensible, je dirais, à la richesse de chaque portrait de Jésus, aussi de la vie du disciple. Hein. Dieu aurait pu nous donner un seul évangile. Mais il nous a donné quatre. Et je trouve que parfois j'ai dit, mais c'est étonnant que l'unité de l'Église primitive n'était pas menacée par la diversité des évangiles. Et je ne suis pas sûre que ce soit le cas aujourd'hui. Si on avait à refaire aujourd'hui dans certains de nos milieux, je pense qu'on n'aurait pas laissé les quatre. Moi, je peux imaginer parfois des discussions en disant « Oui, mais la tentation, Matthieu le met dans un ordre, Luc, il y a un autre ordre. Ben, les deux ne peuvent pas être vrais, il faut trancher. Où est la vérité? C'est l'ordre de Luc ou l'ordre de Matthieu ?» L'envoi post-pascal des disciples, c'était en Galilée sur une montagne, comme Matthieu, ou c'est dans une maison à Jérusalem? Il faut trancher, il ne faut pas laisser les deux. Mais cette unité n'était pas menacée pour l'Église primitive, et l'Église nous a laissé quatre. L'Église a quand même mis les limites, il y avait quatre et pas 36, quand même. Mais elle a laissé cette diversité que je trouve très très bien. Donc, j'aimerais juste prendre, avec le temps qu'on a, j'aimerais prendre deux petits exemples de différence de spiritualité. J'aimerais prendre un exemple chez Luc et l'autre exemple chez Jean. J'aurais pu prendre Matthieu ou Marc, mais j'ai pensé pour Luc et Jean. Donc j'aimerais prendre l'évangile de Luc. Luc, dans son évangile, met un accent sur l'accueil, sur la compassion envers les plus pauvres, envers les exclus de la société. Je dirais, aimer le prochain va surtout prendre cet aspect chez Luc envers le prochain, surtout le plus pauvre. Sa spiritualité, je dirais, a une orientation assez active. On dirait aujourd'hui, c'est un peu le courant de spiritualité de justice sociale. Et une Mère Teresa ou un Saint Vincent de Paul ou l'Armée de Salut va bien se retrouver là-dedans. Donc j'aimerais regarder quelques récits chez Luc, des récits, et je prends uniquement ce qui est propre à Luc, hein, unique chez Luc, qui ne se trouve pas dans Matthieu, Marc ou Jean. Donc j'ai laissé de côté tout ce qui se trouve dans les autres. Donc là, on va prendre que les versets pour montrer cet accent sur les pauvres, les exclus, qui n'existent pas dans les autres. D'accord? On va essayer de suivre avec des... J'essaie de mettre des versets dessus. C'est que des versets, donc on va... Ça va? C'est clair? Ça va? Non. Voilà. Je touche plus. Bon, je vais, pour ceux qui sont là, je vais juste dire la référence. D'accord. Donc, Saint Luc raconte le cantique de Marie en Luc 1, 51-53. Ce verset, il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient les pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé les riches les mains vides. D'accord. Donc, la venue de Jésus pour Luc renverse l'ordre ancien, renverse cet ordre. Il y a des renversements de situation pour les humbles, pour les affamés, par rapport aux riches et aux puissants. Donc, premier texte. On ne va pas prendre énormément de temps pour chaque texte, ce n'est pas une exégèse de chaque texte, c'est simplement pour vous donner un aperçu de cet accent chez Luc. Le deuxième texte que j'aimerais voir, c'est en Luc 3, versets 10 à 14. Et là, c'est Luc qui est le seul à raconter les paroles de Jean-Baptiste en réponse à cette question: que ferons-nous donc? Comment produire des fruits qui sont dignes de repentance? Et la question est répétée trois fois. On le voit dans verset 10. Que devons-nous donc faire? Verset 12 et verset 14. C'est trois groupes qui demandent des précisions sur qu'est-ce que ça veut dire répondre au message de Jésus-Christ. On a les foules, les collecteurs des impôts, des taxes et les soldats. Trois groupes qui posent la même question et la réponse, à peu près, est, pour la foule, partager la nourriture et les vêtements avec ceux qui n'en ont pas. Je mets dans mes mots. Pour les péagers, ne calcule pas les impôts pour satisfaire l'avidité personnelle. Et pour les soldats, ne menacez pas les plus vulnérables que les gens plus vulnérables que vous ou ceux sur qui vous avez un pouvoir. Donc la vie du disciple, là, comment répondre à ce message, c'est le partage, le bon usage du bien matériel, de résister à des tentations d'argent. Luc est le seul à raconter ces questions et ces réponses. Un troisième texte, c'est Luc 4, 18-19. C'est la mission de Jésus selon Luc. Luc seul énonce cette mission de Jésus dans les termes suivants. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, ou à mon avis une année de jubilé, un temps de grâce. Et Luc, il va montrer, après, on n'a pas le temps de regarder, mais Luc va montrer dans tout son évangile comment Jésus met cette mission en pratique. Il va reprendre ces termes pendant son évangile pour dire, ben voilà, Jésus a accompli sa mission. Voilà la mission de Jésus. Et je trouve, on le voit assez clairement, j'ai souligné en bleu, son ministère est un ministère de proclamation, pour annoncer la bonne nouvelle, proclamer aux captifs et après proclamer une année d'accueil. C'est un message de proclamation et c'est aussi un ministère de libération, renvoyer libres les opprimés. Quand j'ai souligné délivrance et libre, c'est le même mot en grec, de liberté. On aurait pu dire proclamer aux captifs la liberté et renvoyer libre. Et c'est marrant parce que ça vient de deux textes différents de l'Ancien Testament. Le premier vient de Ésaïe 61, proclamer aux captifs la délivrance, et l'autre vient de Ésaïe 58, verset 6. Luc, là il y a un mélange de versets où le thème c'est la liberté. Et qui sont les bénéficiaires de cette bonne nouvelle, en acte et en parole? C'est les pauvres. Les pauvres, les captifs, les aveugles, les opprimés, les écrasés, je dirais la société. D'ailleurs, si on relit, là le renvoyer libre les opprimés vient, comme j'ai dit, de Ésaïe 58, verset 6. Si je lisais tout le texte, parce qu'il n'y a qu'une petite partie qui est citée, mais si je lis tout le texte d'Ésaïe 58, le texte dit « Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci: détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ce qu'on écrase et rompre tout joug. Donc c'est une manière détachée, rompre les liens, libérer. Et c'est intéressant que Luc utilise le mot pauvre en grec 10 fois, bien plus que n'importe quel autre évangile. Il y a un accent chez lui sur les pauvres. Pauvre, dans le sens, ce mot désigne ceux qui n'ont rien, les nécessiteux, ceux qui sont dépendants de la charité des autres. Donc c'est matériellement pauvre. Mais quand on est pauvre matériellement, ça implique aussi perte de statut, perte de dignité, perte de pouvoir. Le mot pauvre, à mon avis, pour Luc, c'est d'abord matériellement pauvre, mais ça inclut toute condition humaine défavorisée, désavantagée, où la personne est reléguée un peu aux marges de la société. Donc c'est les gens défavorisés, exclus de la société par leur pauvreté matérielle. Et il n'y a que Luc qui raconte la mission de Jésus. Voilà. Un autre texte très différent, c'est la version de Luc de la sermon sur la montagne, du sermon sur la montagne. Vous savez peut-être que Matthieu, quand Matthieu raconte les béatitudes, Matthieu va dire « heureux les pauvres » en esprit. Et point. Hein, point, point. Pas point, mais parce qu'il dit « car le royaume », etc. Mais là, Luc, il va dire « heureux, c'est vous les pauvres ». Ce n'est pas un esprit chez Luc. Et il va continuer en disant « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant. » Et il y a des béatitudes. Et après, il va faire 4 béatitudes, après 4 malheurs. Malheur pour vous les riches. Malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant. Etc. Il y a encore chez Luc un renversement de situation qui souligne entre riches et pauvres, puissants, exclus. Encore quelques textes chez Luc, là je ne vais pas écrire, mais j'ai simplement écrit la référence. Chapitre 7, c'est la veuve, c'est une histoire où Jésus a compassion de la veuve qui vient de perdre son fils unique, donc une situation de précarité, de pauvreté, et c'est encore très intéressant, Luc utilise ce mot veuve plus que n'importe quel autre évangile, hein. Parce que les veuves à cette époque-là étaient vraiment dans une situation de précarité. Il y a aussi la parabole du bon samaritain, ça existe que dans l'évangile de Luc, où on voit que quelqu'un utilise ses biens matériels pour aider l'autre. Par ce partage de temps, de ressources, il montre qu'il aime son prochain. Mais c'est surtout celui qui est exclu, hein, les Samaritains, pour les Juifs. Exclu, énormément de mépris pour les Samaritains. Il y a aussi les paraboles du grand repas en Luc 14, 12 à 24. donc 14, 12 à 24, c'est des paraboles que Matthieu raconte aussi. Donc c'est dans Luc et Matthieu. Mais Luc va mentionner deux fois qui sont invités à ce banquet. Matthieu ne va pas en parler. Il ne va pas faire la liste, Matthieu. Mais Luc, il va faire la liste et en plus, il va le faire deux fois. Donc, souligné. Et cette liste, chez Luc, qui est invité au banquet? Les pauvres, les estropiés, des boiteux et des aveugles. Des exclus. Des pauvres dans la société qui sont invités à recevoir la générosité, la grâce. Il y a aussi, chapitre 16, verset 19, 31, encore une parabole unique chez Luc, qui n'existe pas dans les autres évangiles. C'est la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Je pense que vous le connaissez, on ne va pas le lire. Il décrit cet homme riche avec tous ses vêtements somptueux, la nourriture en abondance. Et puis il décrit le pauvre Lazare. Bon, il n'a pas de vêtements qui vaut la peine d'être mentionné. Il a faim, il se tient à la porte pour mendier. Et l'homme riche, dans cette parabole, ne partage pas ses biens avec ce pauvre. Il n'a pas ce souci de cet homme qui se tient à sa porte jour après jour et désire manger un peu avec les chiens des miettes qui tombent. Et vous connaissez la fin de la parabole. Il y a aussi une autre histoire en Luc 19, 1 à 10 de Zachée. C'est encore unique chez Luc. L'histoire de Zachée, qui le narrateur dit que Zachée est riche. C'est intéressant parce que, encore, c'est un mot que Luc emploie, ce mot riche, beaucoup plus, bien plus que Matthieu, Marc ou Jean. Et toutes les références chez Luc sont négatives quand il parle des riches. Des riches, des gens qui se suffisent en eux-mêmes, des gens qui ne sont pas dépendants de Dieu. Matériellement, donc, Zachée est riche, mais est-ce qu'il est riche socialement? D'une manière, sa situation sociale, il est plutôt exclu. Il n'a pas d'honneur parce qu'il est piéger, il est collaborateur avec des Romains. Et surtout dans une culture où la honte et l'honneur est très important, Zachée est quand même sur les marges, même s'il est matériellement très riche. Et donc, Zachée, à mon avis, Luc, il va faire un petit contraste. Zachée est le contraire, et pour ça, il est un exemple pour Luc, Zachée. Zachée est le contraire des deux hommes riches que Luc mentionne juste avant. Il faut faire une comparaison. L'homme riche de la parabole du chapitre 16, hein, avec le pauvre Lazare. L'homme riche du chapitre 16 avec le pauvre Lazare refuse de partager ses biens avec Lazare. Tandis que Zachée, à la fin, partage ses biens, restitue ce qu'il a volé. Et c'est bien, c'est intéressant de noter, c'est pour ça que je pense que Luc fait un lien, c'est l'homme riche dans la parabole. Vous vous rappelez, il appelle Abraham, hein? Sans succès. Tandis que Zachée, Jésus va dire, Zachée est un vrai fils d'Abraham. Donc voilà le contraste. Et Zachée est pris comme modèle. c'est un vrai fils d'Abraham. L'autre, il va appeler Abraham, Abraham, mais il ne va pas avoir une réponse très suffisante ou satisfaisante. Donc, Zachée est mis en contraste avec cet homme riche du chapitre 16, mais il est aussi mis en contraste avec le jeune homme riche du chapitre 18 chez Luc. Chapitre 18, verset 18-23. Aussi, Luc parle d'un jeune homme riche. Et là, c'est très intéressant, Luc va décrire ce jeune homme riche que Matthieu et Marc vont parler de ce jeune homme riche, mais ils ne vont pas dire qu'il est riche. Ils ne vont pas utiliser le mot riche. Quand Luc décrit le jeune homme riche, il va dire qu'il est un chef et qu'il est riche. Et quand il va parler de Zachée, il va dire qu'il est chef des péagers et il est riche. Il va prendre les deux mots pour décrire les deux personnages. Tandis que Matthieu et Marc, ils vont dire que le jeune homme, il a beaucoup de possessions, il a beaucoup de choses matérielles. Il ne va pas utiliser ni le mot chef, ni le mot riche. Et là, ce jeune homme riche, donc il est comme Zachée. Zachée est comme lui. Et ce jeune homme riche ne distribue pas ses biens aux pauvres pour suivre Jésus. Tandis que Zachée le fait. Donc je pense que Zachée devient pour Luc un modèle qui a une attitude envers ses biens qui n'est pas une attitude de propriétaire. Ses biens ne sont pas à lui. Il partage. Il y a un partage avec les plus nécessiteux. Donc, voilà un peu, en gros, hein, des exemples chez Luc où on voit un accent très fort sur une spiritualité d'action et envers les plus pauvres et les plus nécessiteux. Donc, j'aimerais maintenant prendre Jean et puis après on ouvre une discussion. J'aimerais maintenant prendre des exemples dans l'évangile de Jean. Donc, l'évangile de Jean va aussi raconter les paroles de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres ». Mais on a l'impression, quand Jean dit, dans Jean, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », on a l'impression, et je pense que c'est juste, il ne parle qu'entre croyants. Bizarrement, mais c'est le cas. Et il ne précise jamais quelle forme cet amour doit prendre. Il va dire qu'on donne sa vie pour l'autre, mais c'est à peu près tout. Jean ne va jamais vraiment parler beaucoup des pauvres. Et d'ailleurs, chez Jean, Jésus va dire au chapitre 12, « Des pauvres, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours avec vous. » Vous savez cette phrase, c'est assez rare, cette phrase, « Vous avez toujours des pauvres avec vous », se trouve chez Matthieu, chez Marc, chez Jean, mais pas chez Luc. Pas chez Luc. Ça ne rentre pas dans son approche et on ne le voit pas. Donc, je dirais, l'accent chez Jean, si je dois mettre un mot, et j'hésitais encore quel mot, j'ai pris le mot qui décrit sa spiritualité, l'intimité. Peut-être j'ai mal choisi le mot, à vous de me le dire après. Mais Jean parle beaucoup de l'intimité. L'intimité entre le Père et le Fils. L'intimité entre le Fils et le disciple. L'intimité entre les disciples. Je dirais, l'orientation de spiritualité chez Jean, c'est beaucoup plus une profondeur de relation, de communion. Aujourd'hui, on dirait que c'est un courant plus contemplatif. Saint Jean de la Croix aurait bien s'y trouvé. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Saint Jean de la Croix pour rien. Comment décrire l'intimité? Peut-être il faut peut-être vous dire comment j'utilise le mot intimité. Pour moi, l'intimité, c'est être lié à l'autre. Avec un lien qui est caractérisé par l'amour, par la connaissance, on ne peut pas être intime si on ne connaît pas, donc connaissance qui implique une transparence. Hein? Donc amour, connaissance, et j'ajouterai aussi vulnérabilité. Que quand il y a une vulnérabilité, parce que quand il y a une intimité, pour moi, il y a forcément vulnérabilité. On se laisse affecter par l'autre. Donc, parler d'intimité chez Jean, il faut voir l'intimité. Il va le faire dans plusieurs types de relations. Et j'aimerais juste le... Donc c'est l'intimité entre le Père, Fils, Saint-Esprit, on a parlé juste un peu, et après entre Fils, Disciple et entre Disciple, Disciple. Et chaque fois, l'un est le modèle, la base, le fondement pour l'autre. Donc, j'aimerais commencer l'intimité au sein de la Trinité. L'intimité entre le Père, Fils et Saint-Esprit. Je pense, d'autres biblistes ici peuvent me corriger, mais je pense que Jean parle plus des relations entre les membres de la Trinité plus que n'importe quel autre évangile, ça c'est clair, et je pense même plus que n'importe quel autre livre du Nouveau Testament. Et chez Jean, nous percevons une profonde unité, une continuité d'action entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous donne quelques exemples. L'évangile de Jean est le seul évangile, le seul, à décrire la relation entre le Père et le Fils comme un amour réciproque. Il n'y a que chez Jean que Jésus dit le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Ça se trouve pas en Matthieu, Marc et Luc, que chez Jean. Le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père. C'est que déjà en Dieu lui-même, il y a un échange d'amour. Échange d'amour. L'Évangile parle aussi, l'Évangile de Jean parle aussi d'une connaissance réciproque. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot intimité, qui pour moi a amour et connaissance. Parce qu'en Jean, Jésus dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Il y a une connaissance mutuelle que Jean décrit. Il y a une vie mutuelle aussi. Une vie mutuelle. Jean 14, 10. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Vie mutuelle. Partage mutuel. Jean 16. Verset 15, tout ce que le Père a est à moi. Bon, c'est sûr que dans Jean, l'accent est sur le Père et le Fils, mais je dirais le Saint-Esprit n'est pas loin, n'est pas mis en dehors de ce cercle, parce que le Saint-Esprit chez Jean ne fait rien de sa propre initiative, comme le Fils ne fait rien de sa propre initiative. Le Saint-Esprit continue l'œuvre terrestre de Jésus. Le Saint-Esprit chez Jean, c'est l'autre paraclet qui actualise la parole de Jésus, qui rend alors Jésus présent quand Jésus est physiquement absent, plus physiquement dans ce monde. Et je dirais, quand on lit l'évangile de Jean, les personnes de la Trinité sont toujours en relation les uns les autres. Le Fils est en relation avec le Père et le Fils est en relation avec l'Esprit. C'est des personnes toujours en relation. Il y a une continuation de ce qu'ils font. Il y a un verbe qui existe chez Jean qui n'existe pas chez Matthieu, Marc ou Luc. C'est le verbe vivifier, donner la vie. Ce verbe n'existe pas chez Matthieu, Marc et Luc. Et c'est très intéressant que ce verbe vivifier, donner la vie, est utilisé trois fois chez Jean. Trois fois. Une fois pour décrire ce que le Père fait, il donne la vie. Une fois pour décrire ce que le Fils fait, il donne la vie. Et une fois pour décrire ce que le Saint-Esprit fait, il donne la vie. Il y a toujours unité et continuité. Je dirais, la relation entre ces trois personnes, co-égales, co-éternelles, c'est une relation d'amour, de connaissance, de communion, d'intimité. Le Père, chez Jean, écoute le Fils, glorifie le Fils. Le Fils écoute le Père et glorifie le Père. Le Saint-Esprit écoute le Fils et glorifie le Fils, et avec lui et par lui glorifie le Père. On a l'impression que chaque personne de la Trinité, ces gens, se met à la disposition de l'autre, se donne dans une relation à l'autre. Aucune personne de la Trinité existe pour elle seule. Elles sont toujours en relation. Et ce Dieu qui vit en son sein des relations d'intimité, d'amour, de communion réciproque, ce Dieu n'est pas renfermé sur lui-même. Ce n'est pas un lieu fermé. Ce n'est pas une communion fermée. Ce Dieu aime le monde et désire nous intégrer, nous les êtres humains, dans cette communion qui existe en son sein. Cet être trine désire être un avec nous. Aussi fou que ça puisse être. Et c'est chez Jean, où Jésus dit Jean 17, verset 21, « Afin que, comme toi, Père, tu es en moi et je suis en toi, qu'ils soient également en nous. » Et donc le Père envoie le Fils et le Saint-Esprit pour rendre aussi notre intégration dans cette communauté divine, pour partager les relations qui existent dans cette communauté divine. Donc voilà, Jean, il va vraiment mettre cet accent sur cette communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cette intimité intra-trinitaire constitue aussi le fondement et le modèle de l'intimité entre Jésus et les disciples. Jésus va utiliser le modèle de lui et son Père pour après décrire la relation lui et le disciple, le croyant. Il va dire en Jean 14, Jean 17, il va dire, mais tout comme le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, maintenant les disciples sont dans le Fils. Et le Fils est dans les disciples. Moi, je suis demeuré en moi et je demeure en vous. Ce partage de vie qui vit avec le Père, maintenant il vit avec les disciples. Il va dire en chapitre 15, tout comme le Fils aime le Père et le Père aime le Fils, maintenant Le Père aime les disciples et le Fils aime les disciples. Et il va aussi utiliser cette image des cèpes et des sarments, unique chez Jean dans les évangiles. Parce que cette image de cèpes et sarments évoque, à mon avis, cette intimité. Il n'utilise pas, bon, il l'utilise ailleurs, mais pas quand il parle d'intimité, il ne parle pas de brebis, berger, mais il parle de sarments et cèpes. Comme le cep est dans les sarments et les sarments sont dans les cèpes, comme les sarments et les cèpes ne font qu'une vie, il dit, vous êtes aussi liés avec moi. Il y a une unité de vie qui est là. Comme le Père et le Fils ne font qu'une vie, maintenant, les croyants et Jésus ne font qu'une vie. Et on voit aussi l'importance de cette intimité avec le personnage du disciple bien-aimé. Vous connaissez ce disciple bien-aimé chez Jean, hein, c'est un personnage clé dans l'évangile de Jean, qui on ne voit jamais ce terme disciple bien-aimé ailleurs, dans Matthieu, Marc ou Luc. Hein, c'est que chez Jean. Et c'est vraiment ce disciple, c'est vraiment le symbole du disciple idéal. C'est le disciple que Jésus aimait. C'est le disciple par excellence. Et si on voit toutes les références de ce disciple, comment est-ce qu'il est ce disciple alors que Jésus aime? Alors, comment il est? Qu'est-ce que c'est une vie de disciple que Jésus aime? Bon, chez Luc, il va dire, ben, allez donner les biens aux pauvres. Mais Jean, il va dire quoi, Jean? Quelle est cette vie de disciple chez Jean? Ben, si on prend toutes les références de ce disciple bien-aimé, vous savez où ça commence, ce terme disciple bien-aimé? Quel chapitre chez Jean? Non? C'est chapitre 13. On ne le voit pas avant. C'est chapitre 13, versets 23 et 24. C'est dans la chambre haute où le disciple bien-aimé, le texte dit, est couché sur le sein de Jésus. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ce mot en 13-23, donc la poitrine ou le sein de Jésus. C'est quoi le sein ou la poitrine de Jésus? C'est la place de tendresse, d'amour, d'intimité. Et c'est très intéressant parce qu'il y a ce mot-là, qui est le mot grec kolpos, hein, qui est utilisé là, en 13-23, qui est aussi utilisé dans le prologue, dans Jean 1-18. Où là, il ne s'agit pas du disciple, il s'agit du Fils. Le Fils est dans le sein du Père. C'est lui qui est dans le sein du Père, il a fait connaître, il a révélé. Jésus est dans le sein du Père, et donc puisqu'il a une relation intime avec le Père, il le connaît, il peut le dévoiler, il peut le faire connaître. Et donc après, en chapitre 13, le disciple bien-aimé, le même mot, est dans le sein de Jésus, relation d'intimité, et aussi il peut le faire connaître. Donc le disciple bien-aimé a une relation intime, on le voit en 13-23, on le voit par exemple en 19, après le chapitre c'est 19-27, il confie sa mère à la croix, c'est le disciple bien-aimé. Lui il est le seul disciple qui est resté fidèle. Il fait partie de la famille parce que Jésus lui confie sa mère et il confie les deux. Voilà ton fils, voilà ta mère. Il y a cette intimité au niveau familial. On le voit en Jean 20 au niveau du tombeau. C'est le disciple bien-aimé Pierre qui court au tombeau. Bien sûr, c'est le disciple bien-aimé qui arrive d'abord, bien. Mais il ne rentre pas, il laisse Pierre entrer. Et puis le verset après dit, Il a vu les bandes, il a cru. Le disciple bien-aimé croit, sans voir le Christ ressuscité. Il croit. Il croit sans voir, qui est important pour Jean. Parce que plus tard, il va dire à Thomas, heureux, ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui croient. Et puis, en 21, quand ils sont dans le bateau sur ce lac, et Jésus est sur le rivage, qui reconnaît Jésus d'abord? Ben bien sûr, c'est le disciple bien-aimé. Parce qu'il a une relation intime, il le connaît. Donc, tout de suite, il va dire, ah, c'est Jésus. Après, c'est Pierre qui va se jeter à l'eau, mais c'est d'abord le disciple bien-aimé qui le reconnaît. Et puis, à la fin, donc, c'est ce disciple qui écrit ces choses. Puisqu'il a une relation intime avec lui, avec Jésus, il croit sans voir, il peut être le garant de la véracité de ce récit. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui témoigne de ces choses-là, parce qu'il a une relation intime. Donc, on a, même par ce personnage très... Oui, qui symbolique, il a quand même cet aspect de... Cette intimité avec Jésus est soulignée, cet amour pour Jésus. Et donc après, il y a aussi disciples et disciples. Cette intimité intra-trinitaire qui constitue aussi le modèle pour les relations entre la Trinité, entre les disciples. Et Jésus va dire en Jean 13, 34 et en Jean 15, 12, Jésus va dire, comme je vous ai aimé, donc c'est ici, comme je vous ai aimé, qui est simplement comment le Père m'aime et moi j'aime le Père, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc sa relation avec le disciple est le modèle pour parler des relations entre les disciples. Et même, je dirais, l'unité qui existe entre Père, Fils, Saint-Esprit devient aussi le modèle pour l'unité entre ses disciples. Comme le Père est en moi et je suis dans le Père, vous êtes un. Donc, je dirais, cette relation d'intimité du Père et du Fils se prolonge dans la relation Fils-disciple et qui, à son tour, devrait se prolonger, dans les relations entre les disciples. C'est un exemple à traduire dans la communauté des croyants. Cette intimité pose les fondements pour ces relations. Donc voilà une spiritualité, comment je dirais, peut-être moins active, entre guillemets, que Luc. Donc si on prenait Matthieu et Marc, ce serait encore des aspects très très différents. Mais le but de cette heure, là, je vais arrêter là. Le but n'était pas de, comme j'ai dit, faire une étude de chaque verset, mais de voir ensemble qu'il y a déjà, dans ces évangiles, des accents différents, des expressions différentes de cet aime Dieu et aime ton prochain. Il y a des formes différentes, déjà canonisées dans les évangiles.